3. Après avoir quitté Demasios et fait un petit détour pour s'occuper des brutes qui martyrisaient le petit gosse sous le pont autoroutier, Hodges monte à bord de sa Toyota et parcourt les rues de la ville sans but particulier. Du moins, c'est ce qu'il pense. Jusqu'à ce qu'il se retrouve sur Lilac Drive, dans la banlieue huppée de Sugar Heights, sur les rives du lac. Là, il s'arrête et se gare de l'autre côté de la rue, en face d'un portail portant le numéro 729 sur l'un de ses poteaux en pierre massif. La maison de feu Olivia Trelawney se dresse au bout d'une allée en asphalte presque aussi large que la rue sur laquelle elle donne. Une pancarte à vendre est fixée au portail, invitant les acheteurs qualifiés à appeler Michael Zaffron Immobilier et Résidence de Luxe. Hodges se dit que la pancarte est bonne pour rester là un moment, vu la conjoncture immobilière en ces temps de grâce 2010. Mais quelqu'un s'occupe d'entretenir la pelouse. Et compte tenu de la taille de la dite pelouse, ce quelqu'un doit utiliser une tondeuse autrement plus impressionnante que la petite Lawn Boy de Hodges. Qui paye pour l'entretien? Ça doit être la succession de Mrs. T. On peut dire qu'elle roulait sur l'or, cette femme. Il lui semble se souvenir que le chiffre annoncé pour son patrimoine avoisinait les 7 millions de dollars. Pour la première fois, depuis qu'il a pris sa retraite et passé le dossier du massacre du City Center à Pete Huntley et Isabel Janes, Hodges se demande si la mère de Mrs. T est toujours en vie. Il se souvient de la scoliose qui pliait presque la pauvre femme en deux et la faisait terriblement souffrir, mais une scoliose n'est pas nécessairement fatale. Et Olivia Trelawney n'avait-elle pas une sœur qui vivait quelque part dans l'Ouest? Il essaie de retrouver le nom de la sœur, mais en vain. Ce qui lui revient, c'est que Pete s'était mis à appeler Mrs. Trelawney « Madame Tic Nerveux » parce qu'elle ne pouvait s'empêcher de rajuster ses vêtements, de tapoter son chignon impeccablement tiré qui n'avait aucun besoin d'être tapoté et de tripoter le bracelet en or de sa montre Patek Philippe qu'elle tournait et retournait autour de son poignet osseux. Hodges avait eu de l'antipathie pour elle. Pete en était presque venu à l'exécrer. Du coup, lui coller une part de responsabilité dans l'horreur du City Center avait eu quelque chose de jouissif. Tout compte fait, c'était elle qui avait rendu ces atrocités possibles. Il n'y avait aucun doute là-dessus. On lui avait remis deux clés à l'achat de sa Mercedes et elle n'avait été en mesure d'en présenter qu'une seule. Puis, peu avant Thanksgiving, suicide. Hodges se rappelle très clairement ce que Pete avait dit quand ils avaient appris la nouvelle. Si elle croise tous ces morts de l'autre côté, surtout la jeune Janice Cray et son bébé, elle aura de sérieuses explications à fournir. Pour Pete, c'était l'aveu final. Quelque part au fond d'elle-même, Mrs. T avait toujours su qu'elle avait laissé la clé sur le contact de sa dame grise, comme elle l'appelait. Hodges aussi avait pensé ça. La question c'est, le pense-t-il toujours? Ou bien, est-ce que la lettre anonyme qu'il a reçue hier du soi-disant tueur à la Mercedes l'a fait changer d'avis? Peut-être pas. Mais cette lettre soulève tout de même quelques interrogations. Et si Mr. Mercedes en avait envoyé une semblable à Mrs. Trelawney? Mrs. Trelawney, avec tous ses tics et toutes ses peurs dissimulées sous une fine carapace de défi, n'était-ce pas tout à fait envisageable? Mr. Mercedes savait très certainement avec quelle colère et quel mépris les gens l'avaient traité suite à la tragédie. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de lire le courrier des lecteurs dans le journal local. Est-il possible? Mais il est interrompu dans ses pensées quand une voiture vient s'arrêter juste derrière lui, si proche qu'elle touche presque le pare-choc de sa Toyota. Il n'y a pas de gyrophare sur le toit, mais c'est une Crown Vic bleu pastel. Un modèle récent. L'homme qui en sort est baraqué, avec les cheveux en brosse, et il a sûrement un holster d'épaule sous sa veste. Si c'était un policier de la ville, Hodges sait qu'il y aurait un Glock 40 à l'intérieur, le même qu'il y a chez lui dans le coffre. Mais ce n'est pas un policier de la ville. Hodges les connaît encore tous. Il baisse sa vitre. « Bonjour, monsieur, » dit Coupe en brosse. « Je peux vous demander ce que vous faites ici? Ça fait un petit moment que vous êtes garé là. » Hodges regarde sa montre. En effet, il est presque 4h30. Étant donné que c'est l'heure de pointe, Il aura de la chance s'il arrive à temps chez lui pour regarder CBS Evening News avec Scott Pelley. Il a arrêté de regarder NBC le jour où il a décidé que Brian Williams était un bon bougre un peu trop accro aux vidéos sur YouTube. Pas le genre de présentateur qu'il souhaite quand le monde entier semble sur le point de s'écrouler. « Monsieur, j'espère sincèrement une réponse. » Coupe-en-brosse se penche. Sa veste s'en trouve. Pas un Glock, mais un Ruger. Un flingue de cow-boy, selon Hodges. « Et moi, j'espère sincèrement que vous êtes habilité à me le demander. » Son interlocuteur fronce les sourcils. « Je vous demande pardon ?»« J'imagine que vous êtes agent de sécurité, » répond Hodges patiemment. « Mais je voudrais voir votre badge. Et puis, vous savez quoi ? J'aimerais voir votre permis de port d'armes dissimulé pour le flingue que vous portez sous votre veste. Et vous avez plutôt intérêt à l'avoir sur vous, et pas dans la boîte à gants de votre voiture. » Sinon, vous êtes en violation du chapitre 19 du Code des armes à feu de cette ville, qui en résumé stipule « Si vous portez une arme à feu dissimulée, vous devez également porter votre permis de port d'armes à feu dissimulée. » Alors, voyons voir un peu vos papiers. » Le froncement de sourcils de Coupe-en-brosse s'accentue. « Vous êtes flic ?»« Retraité, » dit Hodges. « Mais je n'ai pas oublié pour autant mes droits et vos devoirs. » « Montrez-moi vos papiers et votre permis de port d'armes, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de me les remettre, un peu que je suis pas obligé, mais j'aimerais les voir. Ensuite, je pourrai vous dire ce que je fais là. » Coupe-en-brosse réfléchit, mais l'espace de quelques secondes seulement. Puis il sort son portefeuille et l'ouvre d'un coup de pouce. Dans cette ville, comme dans la plupart des villes, se dit Hodges, les agents de sécurité traitent les flics retraités comme s'ils étaient encore en fonction. Parce que les flics retraités ont plein d'amis qui sont en fonction et qui peuvent vous rendre la vie difficile s'ils ont une bonne raison de le faire. Le gars s'appelle Radney Peoples et il bosse pour Vigilant Guard Service. Il montre aussi son permis, encore valable jusqu'en juin 2012. Radney, pas Rodney, dit Hodges, comme Radney Foster, le chanteur de country. Foster lâche un sourire. Exact. « Monsieur Peoples, Bill Hodges, anciennement inspecteur de première division. Mon dernier gros dossier était le tueur à la Mercedes. J'imagine que ça vous donne une petite idée de ce que je fais ici. »« Mrs. Trelawney, » dit Foster. Et il recule respectueusement quand Hodges ouvre la portière de sa voiture, sort et s'étire. « Un petit retour vers le passé, inspecteur ?»« Plus d'inspecteur pour moi désormais. Juste monsieur. » Hodges lui tend la main. Peoples la serre. Sinon, vous avez vu juste. J'ai mis fin à mon boulot de flic à peu près au moment où Mrs. Trelawney a mis fin à ses jours. Quelle tristesse, dit Peoples. Vous savez que des gosses ont lancé des œufs sur son portail? Et pas que pour Halloween. 3 ou 4 fois. On en a attrapé une bande, mais les autres... Il secoue la tête. Et du papier toilette aussi. Oui, ils adorent ça, dit Hodges. Et une nuit, quelqu'un a tagué le poteau gauche de son portail. Heureusement, on s'en est occupé avant qu'elle le voie. Vous savez ce que ça disait ? Hodges secoue la tête. Peoples baisse la voix. Salope de tueuse. Voilà ce que ça disait. Et en grandes lettres capitales dégoulinantes. Ce qui était totalement injuste. Elle a juste fait une bourde, c'est tout. Lequel d'entre nous n'en a jamais fait ?
Pas moi, ça c'est sûr, dit Hodges.
Exactement. La Bible dit « que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. »
« On sera bien ce jour-là, » pense Hodges. Puis il demande, avec une sincère curiosité, « Mrs. Trelawney, est-ce que vous l'appréciez ?» Le regard de Peoples se perd en haut à gauche, un mouvement d'yeux involontaire que Hodges a très souvent vu en salle d'interrogatoire au cours des années. Peoples va soit éluder la question, soit carrément mentir. Il choisit d'éluder.
« Eh bien, » dit-il, « elle était généreuse à Noël. Elle se trompait parfois dans les prénoms, mais elle savait très bien qui on était, et elle nous donnait $40 chacun et une bouteille de whisky. Du bon whisky. Vous ne pouvez pas en dire autant de son mari. »
Il lâche un reniflement sarcastique.
« $10 glissés dans une carte de vœux Hallmark, c'est tout ce à quoi on avait droit quand ce vieux radin était toujours en selle. »
« Pour qui est-ce que Vigilante travaille exactement ?»
« Ça s'appelle la Sugar AIDS Association. Une de ces organisations de résidents, vous savez, qui s'opposent aux projets d'urbanisme quand ils leur déplaisent, éveille à ce que tout le monde dans le quartier réponde à certaines exigences de standing, je dirais. Ils ont un règlement draconien. À Noël, par exemple, vous avez le droit de mettre des guirlandes lumineuses blanches, mais pas décolorées. Et elles ne doivent pas clignoter.
Hodges lève les yeux au ciel. Peoples sourit. Ils sont passés du statut d'ennemi potentiel au statut de collègue. Ou pas loin, en tout cas. Et tout ça pourquoi? Parce que Hodges a su mettre le doigt sur l'origine du prénom pas tout à fait orthodoxe du gars. On pourrait appeler ça de la chance, mais il y a toujours un détail qui vous placera sur un pied d'égalité avec la personne que vous voulez interroger. Un petit quelque chose. Et une partie de la réussite de Hodges en tant que flic tenait au fait qu'il était capable de l'identifier. Du moins, la plupart du temps. C'est un talent que Pete Huntley n'a jamais eu. Et Hodges est ravi de découvrir que son flair est toujours en bon état.
« Je crois qu'elle avait une sœur, » dit-il. « Mrs. Trelawney, je veux dire. Je ne l'ai jamais rencontrée, cela dit. Et impossible de me souvenir de son nom.
« Janelle Patterson, » répond Peoples du tac au tac.
« Donc j'imagine que vous l'avez rencontrée. »
« En effet, c'est quelqu'un de bien. Elle ressemble un peu à Mrs. Trelawney, mais en plus jeune et plus jolie. »
Ses mains décrivent une forme de sablier.
« Plus en chair. Savez-vous s'il y a du nouveau concernant cette affaire de la Mercedes, Monsieur Hodges ?»
En temps normal, ce n'est pas une question à laquelle Hodges répondrait. Mais pour obtenir des informations, il faut savoir soi-même en donner. Et de ce côté-là, Hodges est tranquille, car il n'a rien à donner. Il utilise la même expression que Pete Huntley il y a quelques heures.
« C'est le calme plat. »
Peoples acquiesce, comme s'il n'en attendait pas plus.
« Impulsion criminelle ? Aucun lien avec les victimes, pas de mobile, juste le maudit plaisir de tuer. La meilleure chance de le coincer, c'est s'il essaye de recommencer, vous ne croyez pas ?»
Mister Mercedes dit qu'il ne recommencera pas, pense Hodges. Mais ça, c'est une information qu'il ne tient absolument pas à partager. Alors il approuve. L'entente collégiale est toujours une bonne chose.
« Mrs. T a laissé une fameuse succession, » dit Hodges. « Et je ne parle pas seulement de la maison. Je me demande si la sœur a hérité. »«
Ah ouais !» répond Peoples.
Il s'interrompt un instant, puis dit quelque chose que Hodges lui-même dira à quelqu'un d'autre dans un futur proche.
« Puis-je compter sur votre discrétion ?»«
Oui. »
À ce genre de questions, il faut toujours répondre simplement. Pas de qualificatif superflu.
« Mrs. Patterson vivait à Los Angeles quand sa sœur, vous savez, les cachait. »
Hodges acquiesce.
« Mariée, mais pas d'enfant.
Pas un mariage heureux. Quand elle a appris qu'elle héritait de millions de dollars et d'une maison à Sugar Heights, elle a quitté son mari illico et déménagé dans l'Est. »
Peoples fait un geste en direction du portail, avec sa large allée et la maison au bout.
« Elle a habité là pendant 2 mois, le temps que le testament soit homologué.
Elle est devenue assez intime avec Mrs. Wilcox, qui habite au 640. Mrs. Wilcox aime bavarder, et elle me considère comme un ami. »
Ça voulait aussi bien dire copain autour d'un café que partie de jambes en l'air l'après-midi.
Patterson a pris le relais avec leur mère qui vit en ville, dans un immeuble en copropriété. Vous connaissez la mère ?
Elizabeth Wharton, dit Hodges. Je me demande si elle est toujours en vie.
Oh, j'en suis quasiment sûr, parce qu'elle souffrait d'une grave scoliose.
Hodges courbe le dos et effectue quelques pas en avant pour illustrer. Si vous voulez recevoir, il faut donner.
Vraiment ?
Pas de chance.
Bref, Hélène, Mrs. Wilcox, dit que Miss Patterson lui rendait visite avec une régularité d'horloge, exactement comme Mrs. Trelawney le faisait. Enfin, jusqu'à il y a 1 mois. Les choses ont dû empirer, car il me semble que la vieille dame est en maison de retraite du côté de Warsaw County, maintenant. Miss Patterson a emménagé dans l'appartement de sa mère. C'est là qu'elle habite, maintenant. Je la vois quand même de temps en temps. La dernière fois, c'était il y a 1 semaine, quand l'agent immobilier est venu faire visiter la maison.
Hodges décide qu'il a obtenu de Radney Peoples tout ce qu'il pouvait raisonnablement en attendre.
« Merci pour la mise à jour. Je vais y aller. Désolé qu'on ait commencé du mauvais pied. »«
Pas de problème, »
répond Peoples en serrant fermement la main que Hodges lui tend.
« Vous avez mené la danse comme un pro. Et surtout, n'oubliez pas, je ne vous ai rien dit. Même si Janelle Patterson vit en ville, elle fait toujours partie de l'association. Elle est donc toujours notre cliente.
Je n'ai absolument rien entendu, dit Hodges en retournant à sa voiture. Il espère que le mari de Helen Wilcox ne surprendra jamais sa femme au pieu avec M. Muscle, si c'est effectivement ce qu'il y a entre eux. Ça mettrait sûrement fin aux dispositions entre Vigilante Guard Service et les habitants de Sugar Heights, et ce serait la porte assurée pour Peoples, aucun doute là-dessus. Peut-être qu'elle trottine simplement jusqu'à sa voiture pour lui apporter des cookies frais, se dit Hodges en s'éloignant. Toi, t'as trop regardé de thérapie de couple nazi à la télé. Non pas que la vie sexuelle de Radney Peoples intéresse Hodges. Non, ce qui l'intéresse, alors qu'il roule en direction de sa propre maison bien plus modeste du West Side, c'est que Janelle Patterson a hérité de la fortune de sa sœur, que Janelle Patterson habite en ville, du moins pour le moment, et que Janelle Patterson a dû s'occuper des biens de la défunte Olivia Trelawney, ce qui inclurait ses papiers personnels, lesquels pouvaient inclure une lettre, peut-être plus, de l'espèce de taré qui a pris contact avec Hodges. Si une telle correspondance existe, il aimerait la voir. Bien sûr, c'est une affaire qui concerne la police, et K. William Hodges n'est plus policier. En y mettant le nez, il s'aventure bien au-delà des limites de la légalité, et il le sait. Dissimulation de preuves pour commencer. Mais il n'a nullement l'intention de s'arrêter en si bon chemin. L'arrogance présomptueuse de la lettre de ce taré l'a chauffé. Mais il doit l'admettre, l'a chauffé dans le bon sens. Ça lui a donné un but. Et après les derniers mois qu'il vient de passer, c'est un sentiment plutôt exaltant. Si jamais j'avance un tant soit peu, je remettrai tout entre les mains de Pete. En se disant ça, il ne regarde pas dans le rétroviseur, mais s'il l'avait fait, il aurait vu son regard se perdre en haut à gauche.